l'eau et la roche comme deux entités irréconciliables. J'ai longtemps cru les falaises d'Étretat, donnant sur la Manche, inamovibles, comme je croyais la maison familiale indestructible. Avec le temps, s'est érodée cette conviction. Je voyais les efforts pour reconstruire, préserver du délitement, l'âme de notre arbre généalogique. Et puis, les falaises s'érodent aussi, elles s'écroulent même. Plus que jamais, les côtes sont mitées par la mer. On dit d'ailleurs le front de mer, comme si c'était un front de guerre. Voilà, bonjour, nous sommes à la cuisine pour la quatrième session de l'Onde Dilettante. Nous sommes aujourd'hui donc accompagnés de trois personnes et de trois chiens, je crois, aujourd'hui, qui sont sous les tables et qui sont venus nous dire bonjour. C'est fort sympathique. Pour réaliser cette dégustation de ce soir, une dégustation qui sera dédiée, comme vous l'avez compris, à l'eau et à la roche, donc à l'eau minérale. Donc pour en parler ce soir, j'accueille Jérôme Gaillardet, Julien Chopin et Anne-Sophie Milon. Bonsoir.
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 Je vous propose donc trois eaux minérales ce soir. Une première eau minérale qui est ici présente et qui est une eau des Pyrénées. Elle s'appelle l'eau neuve. Elle est captée à 1332 mètres. Enfin, je reviendrai peut-être plus en détail juste après. Donc l'eau neuve des Pyrénées, l'eau de Mont-Blanc, du toit de l'Europe, et une eau alors que j'ai choisie peut-être parce que je dois être un petit peu snob, c'est une eau des Fidji. Pas des eaux qu'on rencontre tout le temps, mais qu'on trouve dans les supermarchés. Donc une eau artésienne des Fidji. Alors pourquoi bien sûr les eaux minérales? Parce que j'ai imaginé dans mon esprit que l'eau traversait les roches. Et en fait, ce que j'ai fini par comprendre, c'est qu'elle s'imprégnait des roches, elle les érodait et elle les emmenait dans l'eau. Enfin, elle les emmenait dans l'eau. Elle emmenait, donc l'eau emmenait ses nutriments pris des roches et que nous, ça nous permettait aussi de vivre parce qu'une eau sans minéraux, est plutôt déconseillé. Alors, je n'ai pas de médecin aujourd'hui autour de la table, on ne va pas aller sur ce plan-là, on va aller plutôt justement sur ces relations entre l'eau et la roche. Alors, je propose de démarrer tout de suite. L'eau avec l'eau neuve, je vais vous la servir et puis ensuite, je vous dis ce qu'il en est de cette eau. Donc, Jérôme. Alors, vous pouvez bien sûr la sentir. Les verres ont été nettoyés.
C'est de la flotte, quoi.
Vous pouvez en parler.
Je commence par dénoncer directement mon voisin qui a dit tout doucement, c'est de la flotte, quoi.
Mais on nous aurait trompés. Moi qui pensais que c'était de l'eau minérale. Alors, celle-ci a été captée à 1332 mètres en Haute-Ariège, dans la vallée de Pédour, du côté de Mérins. C'est une eau de fonte de neige qui culmine normalement à 2300 mètres et qui a été, d'après la notice, filtrée pendant 5 ans dans la roche. Le service marketing de l'eau neuve nous informe également que seulement 15% de la source est captée et qu'elle contient du bicarbonate à hauteur de 28%, de 28 milligrammes par litre, on va dire, de chlorure, de sulfate, de calcium, potassium, silicate et magnésium. Je ne vais peut-être pas vous donner les éléments. Je ne suis pas sûr que ça nous fera avancer dans la réflexion. Alors peut-être, Jérôme, qu'en dis-tu de cette eau qui est de la flotte? Est-ce que c'est vraiment de la flotte, d'abord? Une eau qui descend de la montagne?
C'est de la flotte parce que la molécule majoritaire, oui, c'est H2O. Maintenant, c'est pas, si on s'amusait à l'évaporer, on trouverait un résidu sec qu'on serait capable de peser sur une balance du moment qu'on évapore un litre. Donc, en fait, c'est pas que de la flotte.
Ah, effectivement, l'extrait sec à 180 degrés est de 69 mg par litre.
Ouais, pas répété. Combien ?
69.
Ah oui, c'est pas beaucoup. L'Aveyron en a 300. L'Aveyron donc, c'est 300. Trois fois moins que l'Aveyron.
Mais alors, comment c'est possible, une eau minérale qui a moins de minéraux que dans l'Aveyron ?
Ah ben, c'est pas un problème. Non, je vais déconstruire ce que tu as dit.
Oui, bien sûr.
Donc, c'est pas l'eau n'est pas minérale parce qu'elle a interagi avec la roche. Parce que la roche, par définition, c'est ce qui est intact, inaltéré, pur. Voilà. Et donc, l'eau a interagi, non pas, elle ne s'est pas déplacée dans la roche, c'est pas vrai. Elle se déplace dans les interstices de ce qui était la roche ou dans des fractures de ce qui était la roche, mais en la traversant, elle la transforme. D'où la notion de zone critique. Donc en fait, l'eau est minéralisée parce qu'elle traverse une pellicule de la surface de la Terre qui est la zone critique. Donc la question est, pourquoi il y a une zone critique ? Donc il y a une zone critique parce que cette eau qui, en traversant la zone critique, c'est-à-dire la pellicule superficielle de la planète rocheuse, s'est chargée de gaz carbonique et que ça provoque une réaction chimique. Donc là où tu as raison, c'est qu'effectivement, il y a un choc. Il y a un affrontement entre, c'est pas l'eau, c'est l'acidité de l'eau et, en gros, pour parler comme un chimiste, la basicité des roches. Voilà. Mais c'est une réaction chimique au sens de Lavoisier. Un acide plus une base donne des sels plus de l'eau. On en revient toujours au grand classique. 1783, je crois bien. Voilà. Donc là, j'ai fini. À peu près tout dit, mais je voulais juste ajouter une chose pour orienter la discussion, c'est que si cette eau est chargée en gaz carbonique, c'est qu'il y a un mécanisme qui l'a enrichi en gaz carbonique, parce que dans l'atmosphère, il y a très peu de gaz carbonique.
Et peut-être, pourtant, on n'arrête pas de nous expliquer, il y a trop de gaz carbonique.
Très bien, vous êtes un bon public. 350, allez, on va être gentil, 410-6 grammes par gramme. Il a fallu attendre les années 1950 pour qu'on soit capable de les mesurer. Honneur à Monsieur Keeling qui a installé ce truc, cet instrument à Mauna Loa contre la volonté de ses financeurs qui disaient « Mais qu'est-ce que tu nous ennuies avec ce machin qui va mesurer un gaz qui est insignifiant dans l'atmosphère ?» Donc il y a forcément un moment, un mécanisme d'enrichissement du gaz carbonique dans la zone critique. Trois petits points de suspension. Je finis.
Il y a un suspense, il va y avoir une suite.
Il y a un suspense.
Moi, j'attends.
Qui a enrichi ce gaz ?
Anne-Sophie ?
T'es pas suivi. Enfin, si j'ai suivi, mais tu voudrais que je switch sur les nouveaux minéraux ?
Non. Je voulais que tu switches sur le fait que ces eaux dites minérales sont minéralisées par l'intervention des vivants.
Exactement. Voilà,
parce que c'est la décomposition des vivants dans la zone critique qui produit des concentrations en gaz carbonique, cette acidité suffisante pour faire la réaction, dont le résultat est la minéralité de l'eau. Voilà. Donc les eaux ne sont pas minérales, elles sont minéralisées, elles sont
vivantes.
Elles sont vivantes, elles sont le résultat de l'action des vivants. C'est pas beau ça ?
Ah, c'est magnifique. On est content d'être
venu. Donc on les déguste différemment du coup.
Oui, allez, dégustons. On passe à la suite ? On a eu déjà un beau premier cours. La deuxième eau minérale que je vous propose, c'est cette eau du massif du Mont Blanc. Donc l'eau de Mont Blanc, elle est captée à 1518 mètres. C'est une eau de fonte des neiges également, issue du massif du Mont Blanc, qui, comme on le sait tous, culmine à 4810 mètres ou 4809 mètres. J'ai vu les deux informations. Elle est filtrée naturellement après un parcours de plusieurs années dans les roches vierges du prestigieux massif de granit et de gneiss. Vous l'entendez, c'est plutôt un discours de communication. Peut-être, Jérôme, si je te dis l'extrait sec, ça t'intéressera, ou ça nous intéressera, il est de 105 mg par litre. Contrairement donc à tout à l'heure où il était de 69 mg par litre. On n'en est quand même pas à l'Aveyron, mais c'est déjà supérieur. C'est le toit de l'Europe. Et alors, c'était une habile transition pour moi pour parler avec Julien. Julien, il me semble que tu as travaillé en tant qu'architecte sur un projet dans la région d'ailleurs, dans le Lot. Tu m'expliquais, mais peut-être peux-tu nous l'expliquer directement, que vous avez réalisé avec l'agence d'architecture dans laquelle tu travaillais un toit en pierre sèche. Et il semblerait que vous ayez des petites problématiques d'eau sur ce toit. Des choses qu'on connaît quand même assez régulièrement tous dans nos maisons. Alors peut-être est-ce un moyen de nous parler des liens entre l'architecture et l'eau ?
Effectivement, on a construit un bâtiment, un micro, une œuvre d'art refuge, selon l'intitulé que lui a donné, que nous a proposé comme commande derrière le Hublot et le parc naturel d'Écosse du Quercy, faire une œuvre d'art refuge sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Tout ça en pierre sèche. Donc, pierre sèche veut dire, pour ceux qui ne connaîtraient pas, veut dire tout simplement des pierres qui sont assemblées et on arrive à construire un mur sans rajouter de ciment, de mortier, donc sans rajouter d'eau. D'où cette technique qu'on appelle sèche, qui peut s'appliquer aussi aux structures, quand on dit des structures bois ou des structures métal en opposition aux structures béton, c'est ce qu'on appelle la filière sèche du bâtiment. Donc là, on a construit en pierre sèche. On a construit sur le principe d'une caselle où on a deux voûtes. Donc c'est de la pierre à bâtir, de la pierre calcaire, extraite d'une micro-carrière du sol directement. Donc on extrait des blocs de pierre. Il y a deux types, des blocs qui ont des formes variées, qui permettent de bâtir la première voûte, qu'on appelle l'intrados. Et ensuite, dessus, on récupère des loses, donc qui sont ces pierres plates, qui sont comme ces pierres, comme des feuilles, et ensuite qu'on assemble patiemment sur la première voûte, et qui forme la deuxième voûte en pierre. Et l'ensemble, normalement, est étanche. Et dans notre cas, on a découvert une fuite. Donc voilà, c'est un peu le paradoxe d'avoir construit en pierre sèche un bâtiment qui, pour l'instant, a encore une petite fuite dans son toit.
C'est des problématiques normalement qu'on n'a pas donc dans l'architecture. Lorsqu'on réalise un toit, il ne se met pas à fuir directement.
Bien que c'est... Alors, j'entends dans l'assistance Franck Guéry aurait connu ces problèmes. Il y a de nombreux architectes qui sont confrontés à ça. Je voudrais citer trois architectes qui s'appellent Josic, Candilis et Wood, qui ont construit le Mirail à Toulouse, et notamment l'école d'architecture dans laquelle j'ai appris l'architecture. Et je me rappelle que la première fois que je suis rentré dans cette école, en face de moi, j'ai trouvé une bassine, une poubelle noire, qui collectait d'un goutte à goutte du toit qui fuyait. Donc finalement, je me dis qu'après 20 ans d'exercice, d'avoir moi aussi été confronté à la fuite, je pense que c'est pas si grave que ça.
Alors est-ce qu'il y a un lien justement entre ces toits de nos habitations qui fuient et les montagnes? Est-ce que c'est une forme de fuite finalement? L'eau qui traverse la montagne et qu'on récupère, et on appelle ça de l'eau de source, mais c'est une forme de fuite.
C'est exactement la même chose, parce qu'on a tous eu des fuites dans notre toit et on a tous pesté parce qu'on ne sait pas par où passe l'eau. Moi, j'ai passé temps fou à foutre des machins sur mes tuiles, etc. Et ça continuait toujours à couler. Et le problème de l'hydrologie ou de l'hydrogéologie, qui sont les deux sciences qui étudient la manière dont l'eau s'infiltre dans le sol, c'est de trouver par où passe l'eau. Quels sont les chemins de l'eau, je préfère dire les courants d'eau, comme on parle des courants d'air, parce que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, quand il pleut, l'eau ne s'infiltre pas gentiment de manière homogène. Elle emprunte des chemins préférentiels, qui sont des fractures, qui sont des zones plus ou moins dissoutes, poreuses. Dans les massifs calcaires, c'est encore plus évident. Elle emprunte des canaux karstiques, des grottes, des gouffres, etc. Et c'est un problème incroyable que d'essayer de savoir par où passe l'eau dans les roches. Donc exactement la même problématique.
Et il y a même un métier qui s'appelle faire de la reconnaissance de fuite, et où il y a des spécialistes qui ont à la fois des méthodes et des instruments pour arriver à tracer, en tout cas dans un bâtiment, l'origine et du coup le chemin de la fuite.
Et là, je résiste pas, bien sûr, à l'anecdote de l'incendie de l'usine de Pastis de Pontarlier en 1901 et la coloration de la Loue, qui est une rivière. Donc Pontarlier, c'est sur le Doubs, pour ceux qui ne connaissent pas. Et quelques semaines ou jours plus tard, les habitants de la vallée de la Loue constatent que la Loue est devenue un vaste ricard. Voilà. Et ça a été le début de l'hydrologie karstique, c'est-à-dire on n'a pas mis du ricard, on a inventé d'autres molécules comme la fluorescéine pour suivre les eaux.
Alors, Anne-Sophie, peut-être, quand je suis arrivé à la cuisine lundi dernier, que je t'ai demandé si tu avais des idées d'un endroit où on pourrait capter de l'eau de l'Aveyron, tu m'as donné une réponse qui m'a un peu surpris. Peut-être pourrais-tu nous en parler, si tu t'en souviens.
Oui, bah ça rebondit avec ce qu'on vient de dire. En fait, ici, dans le centre d'art et de design La Cuisine, il y a eu au mois de février en fait une grosse crue. Et donc, la rivière de l'Aveyron qui longe ce centre d'art est sortie de son lit. Et en fait, on a pu se rendre compte, avec des fortes pluies, qu'il y avait eu une sorte d'infiltration, pour le coup, un dégât des eaux dans une des salles qui s'appelle l'atelier, qui est couverte par un plafond de béton, et l'apparition de petites stalactites et fistuleuses qui ont donné naissance à quelque sorte des nouveaux minéraux. Et effectivement, avec le travail que je mène avec le collectif Elsa Véron, on a commencé à réfléchir en parallèle à la rivière de l'Aveyron de manière classique, comment elle réagissait en miroir et en tension avec ces stalactites et fistuleuses qui sont apparues. Et on a par exemple essayé de se demander, ce dont on va me parler, c'est-à-dire à quel endroit il y a des parallèles entre la montagne, l'infiltration dans les systèmes karstiques et des dégâts des eaux, et comment on pouvait peut-être potentiellement déplacer ce vocabulaire-là. Alors nous, on a plutôt exploré ça sous le prisme de la spéléologie. On est allé se renseigner auprès de spéléologues comment ils nommaient les choses. Et on a aussi découvert les recherches qui sont menées actuellement par des minéralogistes états-uniens qui se battent pour essayer de reconnaître ces nouvelles formes de minéralogie qui sont issues ici du béton et comment l'Association internationale de minéralogie refuse de les reconnaître vu qu'ils ne sont pas créés par la nature mais sont fabriqués par l'homme. Donc voilà. Et donc quand tu es venu et que tu m'as demandé où est-ce que tu pouvais trouver des sons de la rivière de l'Aveyron, je t'ai suggéré effectivement de descendre dans l'atelier, puisqu'en fait on a été assez aussi surpris de voir que ça continuait de goûter et ça fabriquait une sorte de flaque au sol et qu'on n'a toujours pas trouvé d'où venait la source de l'eau, puisqu'on est, comme vous disiez, c'est bien, on est allé voir les plans d'architecture, on est allé sur le toit et il n'y a pas de traces d'eau.
Alors tu dis la source de l'eau, mais je me demande, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que c'est une forme d'eau de source, même si le débit est relativement faible, enfin même extrêmement faible.
Tu voudrais nous faire boire de l'eau cimentée ?
Non, mais je me dis, ça pourrait être peut-être la première eau minérale issue d'un centre d'art. Est-ce qu'on pourrait aller jusque-là ? Une eau minérale, je sais, je n'ai pas donné la définition tout à l'heure, mais ce qui fait la différence avec une eau de source, c'est que la minéralité est régulière. C'est surtout ça, la différence avec l'eau de source.
Je ne sais pas.
Non, mais c'est une information que j'ai vérifiée.
Je ne sais pas.
Tu veux voulais dire quelque chose. Je pensais que tu voulais dire.
Je pense que oui, ça, tu as raison, Anne-Sophie. On pourrait très bien imaginer que la réaction de cette eau dans le ciment, qui est exactement la réaction de l'eau dans le massif du Mont-Blanc, produise une eau dite minérale. Et sa composition chimique ne serait pas très différente de la composition chimique des eaux du massif du Mont-Blanc. Parce que le ciment, c'est un silicate, et le Mont-Blanc, c'est aussi un silicate. Le Mont-Blanc a été créé par la tectonique des plaques, mais le ciment a été créé par...
Alors, pour le coup, le béton, c'est du ciment, du granulat et de l'eau. Donc le ciment, il vient de Charente. L'eau vient du puits de Tignoles, qui est à 100 mètres, et le puits pompe, pour le coup, dans la nappe phréatique qui est en lien avec la rivière de l'Aveyron. Voilà. Et le granulat vient de Montricou, qui est à quelques 20 minutes de voiture d'ici, et issu du calcaire. Donc, en fait, en quelque sorte, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que on retrouverait effectivement des formules chimiques assez proches de ce qu'on pourrait avoir à d'autres endroits. Et puis, en plus de ça, vis-à-vis des questions d'architecture ou de questions de terre sèche ou de pierre sèche, où en fait, on a envie de rejeter le béton parce qu'il incarne beaucoup trop un geste de la modernité du XXe siècle dans une histoire de l'architecture très particulière. Quand on regarde le béton d'un point de vue vraiment chimique et comment il faut le fabriquer, c'est ça qui est assez passionnant, c'est qu'en fait, il est extrêmement local, paradoxalement, contrairement à d'autres pierres qui, finalement, vont venir de beaucoup plus loin. Et voilà.
Très bien. Puisque tu parles de local, c'est peut-être le moment de déguster cette troisième eau qui n'est pas tout à fait locale, puisqu'elle vient de l'autre bout de la planète. Je vais vous la servir. Donc, c'est une eau artésienne. Alors, peut-être, pendant que je la sers, peut-être Jérôme ou Julien. Non, peut-être pas Julien, mais le puits artésien, si tu sais ce que c'est.
Non.
Julien, non. Peut-être, non, non plus, Anne-Sophie. Alors... peut-être Jérôme est au courant.
Le puits artésien, on faisait l'expérience à l'école primaire dans le temps. Donc lorsque le niveau de recharge d'une eau se fait à une altitude donnée, je ne sais pas, on va l'appeler Z, et que cette eau s'infiltre dans la croûte terrestre et qu'elle ressort, elle ressort forcément sous la forme d'une source à un niveau qui est plus bas que Z. Et si on la laisse jaillir, elle va... avoir tendance à monter jusqu'au niveau de Z. Et par exemple, M. Arago, qui a été ministre de la Troisième République, avait compris ça et a dit, nous allons faire un forage dans Paris et je vous le parie, la nappe phréatique du Crétacé supérieur, inférieur, sous la craie, va jaillir comme un geyser. Et Arago, qui était un physicien, loin d'être idiot, a fait faire l'expérience et aux victoires, comme Georges Cuvier à Montmartre, on a vérifié son hypothèse. Les fontaines Vallas à Paris sont des fontaines artésiennes qui utilisent la nappe du Crétacé inférieur. Ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, elles n'ont plus été artésiennes car on les a trop pompées. Elles sont redevenues artésiennes car on a arrêté de les pomper.
Tu veux dire qu'il y a de nouveau de l'eau qui est venue
Il y a de nouveau de l'eau qui revient, naturellement.
Mais par contre, quand on a fait le forage cette semaine sur l'île et qu'on a expérimenté plusieurs carottes pour voir la nature des sols, tu me disais que ce n'était pas possible pour le coup que la rivière de l'Aveyron émerge de cette manière-là.
Non, parce que la nappe de l'Aveyron, elle est 3,50 m à peu près sous nos pieds. Mm-hmm. Donc elle ne peut pas jaillir, elle ne peut pas aller contre la gravité. La loi est dure, mais c'est la loi.
D'accord.
C'est pas de moi.
Alors, l'eau de Fidji, quand même, parlons-en un petit peu. Donc, c'est censé être une eau extrêmement pure. Elle est conseillée par Martin Rieseux. Martin Rieseux, il est allemand, il me semble. En tout cas, c'est un sommelier qui s'est spécialisé sur l'eau. Il considère que c'est une eau qu'on pourrait prendre au petit déjeuner, ou même au moment de se lever, parce qu'elle est extrêmement douce. Donc, je ne sais pas comment, vous qui l'avez encore déjà goûté, ce que vous en pensez. Elle contient, alors, je donne le résidu sec, maintenant, elle contient 223 mg par litre. Donc là, on commence à se rapprocher de ce qu'il y a dans l'Aveyron. Et d'après les analyses qui ont été faites, il semblerait qu'il y ait un petit peu d'arsenic dedans. Donc elle ne serait peut-être pas si pure que ça.
Oui, je cherchais le qualificatif et avant que tu dises ça, j'aurais dit épicé. Et je trouve qu'elle a, elle a quelque chose. Alors, est-ce que c'est de l'arsenic ?
Ou des vieilles dentelles ?
Il faut le dire dans le micro, Jérôme.
Je disais ou des vieilles dentelles.
Bah, effectivement, je la trouve douce. Bon, le public, je ne sais pas si le public a envie de goûter, mais vous savez que vous êtes toujours invité. Enfin, bon, il n'y a pas de verre, mais on pourra vous donner des verres pour goûter cette eau. Peut-être pas aussi réputée que l'eau de Saint-Blaise qu'on a goûté le premier jour, mais tout de même. Donc c'est une eau qui a traversé les roches des îles Fidji. Les îles Fidji, ce sont des îles volcaniques. Est-ce que ça fait une différence, peut-être, Jérôme, je te pose la question, le fait que ce soit des îles volcaniques en termes de composition?
Il y a deux paramètres qui jouent sur la minéralité d'une eau. C'est la nature de la roche traversée, avec laquelle elle interagit, et le temps mis pour faire le trajet. Donc plus le temps est long, plus l'eau est minéralisée. Exemple, en France, la Vichy-Saint-Yor est extrêmement minéralisée parce qu'elle met un temps assez long à cheminer dans les piles de roches du Massif central. Voilà, donc oui, la nature volcanique des roches va avoir une grande influence. Et en général, les eaux volcaniques sont plus minéralisées que les eaux non volcaniques. Contre-exemple, Volvic. Mais si vous m'avez bien suivi, Volvic, c'est parce qu'elle réside très peu de temps entre le moment où une goutte de pluie tombe et le moment où elle est exploitée.
Et est-ce qu'on peut estimer ce temps, d'ailleurs ?
Alors, Sylvain, qui est là, était plus expert que moi en hydrologie, on va dire. Mais oui, alors on sait le modéliser. Et on a même des techniques extrêmement sophistiquées, utilisant, c'est intéressant, les gaz que l'homme a introduits dans l'atmosphère, les CFC, pour les dater. Car le gros pic des CFC, c'est dans les années 60. Et donc, en mesurant la teneur en CFC de cette flotte, on peut dire quand est-ce qu'elle s'est rechargée dans la croûte. Voilà. Il faut en profiter parce que bientôt, il n'y a plus de CFC. C'est dommage. Mais oui, on sait faire.
Voilà, bon, très bien. Donc, nous avons dégusté ces trois eaux. Je pense qu'on a parlé de beaucoup d'éléments. On a parlé, bien sûr, d'eau minérale et associée surtout à la montagne. On était dans un milieu plutôt montagneux. À part peut-être les îles Fidji, encore que ce sont des montagnes. Je ne sais pas quelle élévation. J'ai pas eu l'information sur quelle élévation elle avait. Mais les combats entre les roches et l'eau, c'est pas seulement en montagne, ça se passe aussi en plaine. Est-ce que. Alors, c'est pas lié à la dégustation à proprement parler, mais ce combat, cette guerre qu'il y a entre l'eau et la roche. Dans l'introduction, quand je disais cela, je me posais quand même la question de savoir si c'était une véritable guerre, si ce n'était pas plutôt une alliance, parce que finalement, les roches calcaires viennent de la décomposition de sédiments qui sont dans l'eau, et réciproquement, ensuite, l'eau, par l'érosion, érode le calcaire qui se réintègre dans l'eau. Est-ce que ce n'est pas plutôt une alliance, donc, qu'une guerre ?
C'est des processus de transformation. Hein. C'est pour ça, quand tu parles aussi de... Moi, j'ai l'impression qu'on réduit toujours la molécule de l'eau à H2O, ce qui est le cas. Mais finalement, on ne trouve jamais de l'H2O tout seul. Il est toujours dans l'eau, il y a toujours des multiples autres molécules autour de lui, autour d'H2O. Et ce que je trouve intéressant, c'est que tu parles de l'eau et des roches, mais moi, j'irais même plus loin sur l'atmosphère et l'air. En fait, il n'y a même plus de frontières de ce point de vue-là. C'est-à-dire les pluies qui tombent, qui viennent se faire filtrer par les sols et après par les roches pour après devenir de l'eau qu'on boit. En fait, c'est toute une chaîne historique de transformation chimique.
Alors quand on a un changement, avec le changement climatique que l'on vit aujourd'hui, on sait qu'on va avoir une augmentation de l'eau, enfin de l'eau de mer en particulier, avec des incidences. Donc on est en ce moment beaucoup en train de dire il faut maintenir le front de mer. Il y a d'importants travaux sur les fronts de mer pour empêcher cette eau d'envahir les terres. Et on a le sentiment de faire une guerre contre l'eau. C'était aussi le sens de ma question. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt faire une alliance? Alors peut-être, Julien, tu pourrais nous dire quelque chose par rapport à ça. Je pense au pilotis, tout simplement. Mais est-ce qu'il y a de nouvelles projections en termes d'architecture pour dire comment on va vivre avec l'eau dans l'avenir? Même si ce n'est pas un avenir qui va arriver là tout de suite, un avenir relativement lointain.
Alors tu dis pilotis, donc je pense au mouvement moderne et donc au béton. Et du coup, avant de répondre précisément à la question, on pourrait regarder aussi quand même ce que c'est que ce béton qui est quand même du calcaire qu'on a chauffé, cuit à très haute température, qui ensuite donne du ciment, et ensuite auquel on rajoute beaucoup d'eau avec des agrégats, tu l'as indiqué, et qui fait que ça fait ce qu'on appelle cette fameuse pierre liquide. Donc c'est quand même une invention assez fascinante, mais qu'on a maintenant surutilisée et complètement dévoyée de sa fonction, et qui est quelque chose qu'on devrait réserver à des usages très 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 précis. Donc là, il y a aussi une alliance très particulière entre la roche et l'eau pour faire une pierre liquide figée dans des bâtiments. Donc c'est sûr que nous, on a un de nos premiers bâtiments, c'était en béton, c'est le dernier, et je pense que je préfère de loin construire de façon sèche, alors sans, pas forcément avec de la pierre sèche, mais ne serait-ce qu'en structure bois, qui me semble la façon simple, évidente et pertinente de construire aujourd'hui. Donc ça, c'est peut-être sur la question matérielle de la question de l'eau dans l'architecture. Et après, sur la question des pilotis, c'est peut-être aussi tout simplement regarder où est-ce qu'on construit. Et il y a toute cette question aussi autour de l'inondabilité et des zones inondables. Mais peut-être que, oui, les pilotis, c'est une façon d'avoir le moindre impact sur le sol, sur le milieu. Oui, c'est une façon de construire plutôt avec que contre, pour laisser passer l'eau si besoin.
Je voudrais dire quelque chose qui est quand même l'essentiel qu'on n'a pas dit. Oui, on boit de l'eau, et donc on peut se poser... Alors, je suis d'accord, Anne-Sophie, bien sûr, il n'y a pas que de l'eau, mais enfin, quand même, les chiffres parlent d'eux-mêmes, 50 mol par litre d'eau. La mol, ça compte les atomes. Et bon, le calcium, voilà, 100 micromol, c'est-à-dire 110 moins 6 mol par litre, enfin, c'est rien. Donc c'est quand même de l'eau. Et la question, c'est d'où vient cette eau? Pourquoi il n'y a pas d'eau sur Mars? Pourquoi il n'y a pas d'eau sur la Lune? Pourquoi il y a de l'eau sur Vénus? C'est pas clair. Et pourquoi on est là autour de cette table et qu'on discute des pierres sèches? D'où vient cette eau?
Il y a des hypothèses, mais est-ce qu'on le sait vraiment?
C'est encore une des grandes controverses scientifiques qui a un épisode quasi chaque année, le dernier étant un papier à Science il y a une petite année de collègues de Nancy qui ont remis le curseur du côté de l'eau que nous buvons est une eau qui vient essentiellement de l'intérieur de la Terre, car le curseur était parti de l'autre côté. L'eau que nous buvons, l'eau de nos océans, est essentiellement une eau extraterrestre qui a été apportée à la Terre. Qui a été apportée à la Terre à un stade tardif de sa construction, de son accrétion météoritique, par ce qu'on appelle le grand bombardement tardif, j'adore cette expression, qui aurait apporté, alors il y a beaucoup d'hypothèses, soit des météorites d'un type particulier, riches en eau et en carbone, d'où l'idée que c'est peut-être comme ça que la vie est également apparue, ou alors des comètes. Et l'exploration de la comète Chury il y a quelques années a été très décevante de ce point de vue-là, parce que sa composition isotopique, c'est-à-dire sa carte d'identité de l'eau, a montré que ce n'était pas possible que ce soit des comètes de type Chury. Donc l'hypothèse cométaire a du plomb dans l'aile. L'hypothèse météoritique est toujours valable. Mais l'année dernière, l'idée que c'est la Terre elle-même qui a puisé son eau de l'intérieur de son manteau a refait surface, si je puis dire. C'est un mauvais jeu de mots. Mais c'est toujours un grand débat que je trouve vraiment passionnant, parce que c'est quoi l'originalité de la planète Terre dans le système solaire? C'est la coexistence de l'eau et du gaz carbonique, les deux étant des frères ennemis, quoi, vraiment. Et c'est pour ça qu'on est là. Il faut juste le dire, quand même.
Magnifique.
Anne-Sophie, tu as envie de rebondir sur...
Non, je me demandais juste la notion de frère ennemi entre l'eau et le gaz carbonique. Tu veux dire que le gaz carbonique, quand il est au contact de l'eau, le pétrifie ?
Le gaz carbonique adore l'eau et il s'y dissout pour former un acide. Ah. Et tous les deux sont extrêmement corrosifs. Voilà, c'est pour ça que cette eau est minéralisée.
Okay. Bon, je crois qu'on peut... On peut arrêter là, ça permet d'avoir une belle vision de l'eau. Merci.
Une échappée.
Oui. Merci Jérôme, donc Jérôme Gaillardet. Merci Julien Chopin et merci Anne-Sophie Milon.
Merci.
Et puis merci Vito pour la régie.
Merci Vito.
Merci à tous. Bonne soirée.